www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Didier Martin.
Bonjour.
Didier Martin, vous dirigez le classique chez Naïve. Naïve et la musique classique ont toujours entretenu une relation assez privilégiée, on en parlera évidemment. L'actualité du moment, c'est cette collection qui s'appelle La Collection Naïve, alors on pourrait dire La Collection Classique peut-être Naïve. 16 références qui sur Qobuz ont la chance en plus d'être en qualité Studio Masters. Il y a même les livrets PDF. Alors vous avez un peu pioché dans le vaste catalogue que vous distribuez, vous avez extrait 16, je sais pas comment on pourrait dire, 16 pépites, 16 merveilles. Parlez-nous un petit peu déjà peut-être de l'origine de cette idée et qu'est-ce que vous avez voulu y mettre dedans?
L'idée, c'est en effet de faire une sélection pour l'île déserte, s'il fallait le dire en une phrase. Ça ne veut pas dire, c'est pas exclusif d'autres sélections possibles, mais ce sont des enregistrements qui ont marqué l'histoire de Naïve et qui ont quelque part marqué l'histoire du disque, soit parce qu'ils ont été multi-récompensés, soit parce qu'ils ont créé des événements au moment où ils sont parus. Donc l'idée était de retracer un petit peu de notre histoire, à l'occasion aussi de nos 15 ans, puisque Naïve est un adolescent qui a 15 ans. De remettre en avant ces titres-là avec une identité visuelle propre et puis avec, comme vous le disiez, une approche dans des livrets un petit peu différente qui donnait un angle de présentation un peu différent des livrets traditionnels.
Alors, aussi bien en termes de répertoire de compositeurs qu'en termes d'interprètes, c'est assez large. J'imagine que, évidemment, qu'il dit île déserte.
À l'image de Naïve.
Voilà, à l'image aussi bien de Naïve, mais aussi bien l'image, j'imagine, de la volonté de faire un île déserte. Donc je ne vais pas citer tout le monde, mais on croise dans cette collection aussi bien Pierre Antaille qu'Andréa Scholl, Christophe Coin, Laurence Equilbet, Quatuor Arditi, Anne Gastinel, Claire Désert, Jordi Savall, Fabio Biondi et son Europa Galante, etc. etc.
Rinaldo Alessandrini.
Voilà. Cette île déserte, c'est la vôtre?
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans du marketing, on va dire, de grande consommation. Donc, il y a beaucoup de coups de cœur. Et puis aussi de choix assez évidents. C'est vrai que les 4 saisons de Fabio Biondi ont marqué l'enregistrement baroque et ont marqué l'interprétation de cette œuvre-là. C'était une évidence. Les variations Goldberg de Pierre Antaille aussi... Christophe Coin a marqué le baroque français. Le fait que Jordi Savall ait accepté d'être présent dans la collection est un grand honneur pour nous. Donc il y a beaucoup d'évidence. Que Laurence Equilbet et Accentus, parmi les 20 albums qu'on a enregistrés avec eux, soient présents, c'était aussi une évidence. La difficulté, c'était de choisir quel enregistrement. Ça n'a pas été très compliqué, à vrai dire.
Vous avez réussi, il n'y a pas eu de crêpage de chignon en interne ou entre...
Non. Et puis, si ça marche, on en fera d'autres.
Vous vouliez toucher quel type de mélomanes avec cette collection? Vous avez parlé évidemment d'Île Déserte, j'imagine que c'est aussi bien les mélomanes classiques qui sont des gros consommateurs, pour prendre un mot, de disques, aussi bien public peut-être un petit peu plus large qui peut-être est un peu perdu parfois dans l'océan.
C'est un petit peu l'objet de ce genre de collection qui est de donner une clé d'entrée un petit peu différente, un prix un peu moins élevé. Donc c'est Graal absolu, toucher ce fameux nouveau public, même si je pense que le mélomane averti a peut-être certains enregistrements, mais pas d'autres. Donc, fait, c'est de ne pas laisser de côté notre catalogue. Voilà, c'est notre richesse, c'est notre pépite, c'est des années de travail, pas seulement de Naïve, hein, aussi de l'histoire des labels avant Naïve, tous ces enregistrements, donc c'est de les faire vivre.
Il faut préciser par rapport justement à peut-être cet autre public plus large, que les livrets, parfois justement, ont des portes d'entrée un petit peu plus grand public, avec des conseils, des recommandations, des lexiques,
voilà, on
etc.
a essayé dans le livret de mettre en place des passerelles vers d'autres arts, la peinture, de prolonger l'écoute, de donner une approche un petit peu plus ludique et en effet d'utiliser un vocabulaire et une approche moins musicologique que dans les livrets traditionnels. De donner aussi des repères de dates. C'est amusant, j'aime bien ce passage où on resitue le compositeur qui est né X années avant tel autre compositeur ou qui est né la même année que tel autre. Ça permet de se situer.
J'imagine qu'en plus c'est une île déserte un peu particulière pour vous puisque vous avez vécu certains de ces enregistrements presque en direct, j'allais dire,
tout
au moment de leur origine. C'est vrai qu'il y a certes un éclectisme, en même temps Naïve a toujours essayé de construire un petit peu une couleur musicale, une approche de direction artistique particulière. Comment vous pourriez la définir un petit peu cette touche Naïve en musique classique, cette identité finalement que le label a réussi à créer à un moment où justement la signification de label, on pourrait même le dire pour tous les styles de musique, commençait un petit peu à s'effriter avec la crise du disque, la fameuse crise du disque, pour utiliser un mot très
Quand on rabâché. Nous demande quelle est notre politique artistique, on aime bien répondre que notre politique artistique, c'est de ne pas avoir de politique artistique, justement, et d'être très ouvert, mais surtout d'être concentré sur le travail avec les artistes. On s'est appelé pendant, depuis de nombreuses années, on préfère s'appeler maison d'artistes que
maison
label,
de disque.
Parce qu'on aime que les artistes soient un peu chez eux. C'est vrai que la plupart tous les artistes qui sont chez Naïve y a des nouvelles signatures, mais beaucoup sont là depuis longtemps. Il y a une grande fidélité. On citait Laurence Equilbert, Rinaldo Alessandrini, Anne Gastinel. Il y a un long parcours entre nous. Donc l'élaboration des albums, il se fait vraiment avec eux. Ils sont au cœur de cette réflexion-là. Donc la politique artistique, elle se fait au cas par artiste par artiste, je dirais, en fonction aussi de leur parcours. Alors c'est vrai qu'on aime bien surprendre. Prenons l'exemple d'Axentus et d'Equilbet. C'est vrai qu'on a commencé par Du Sapin, puis il y a eu ce succès énorme avec les transcriptions qui aurait pu nous emmener dans des répertoires pour aller toujours plus loin. Ben non, après on a fait Schoenberg, puis à un moment on a eu envie d'enregistrer le Requiem de Forêt, puis on a fait Manoury. Donc on aime la diversité finalement et on aime surprendre le public. Mais le cas d'Axentus est intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie fidélité à l'ensemble, aux artistes. Et on fait des scores, notamment sur des compositeurs contemporains ou des compositeurs plus complexes comme Schoenberg, qui ne sont pas du tout inintéressants parce que je pense qu'il y a un public qui suit ces artistes-là, qui suit cet ensemble, quel que soit le répertoire.
Est-ce que ça influe plus ou moins sur la politique éditoriale, justement, quand on se retrouve avec un succès aussi impressionnant, pour reprendre cet exemple ? Cet album d'Axentus qui effectivement a touché un public évidemment au-delà de la sphère dite classique habituelle. Est-ce que ça a un impact sur la façon dont on pilote un petit peu la politique éditoriale ?
Ben c'est ce que je vous disais, on aime prendre le contre-pied, mais il n'y a pas de recette. Donc on a fait Transcription 2, qui s'est aussi très bien passé. Il y a plein d'idées sur d'autres transcriptions, d'autres choses un peu crossover pour employer un gros mot. Mais on n'a pas voulu continuer parce que je pense que ça ne peut pas se reproduire à l'infini et vraiment il n'y a pas de recette et je crois que la démarche de ces artistes-là, je pense à une autre artiste qui est Sonia Vider-Atherton, je pense que sa démarche qui est en dehors du classique traditionnel est une démarche qui est profondément ancrée, qui n'est pas du tout dictée par une envie justement de se différencier, elle est profondément différente. Et je pense que le public ressent cette sincérité quelque part.
Parce que ce ne sont pas aussi des artistes qui sont liés évidemment à leur temps, c'est-à-dire maison à 15 ans à peu près. Donc inévitablement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que représente un label dans les années 2000, par rapport à qu'est-ce que représentait, symbolisait un label dans les années 60, 70, etc. Est-ce qu'il y a ça aussi qui fait que Naïve est différent aussi pour cette raison ? Enfin, le classique chez Naïve.
La proximité avec les artistes fait qu'ils sont tous, je dirais, solidaires de la situation. Les artistes qui faisaient 3-4 enregistrements avant par rapport à des projets artistiques extrêmement denses savent que faire plus d'un enregistrement par an aujourd'hui est totalement suicidaire et de toute façon on ne pourrait pas les suivre. Donc ils ont une grande solidarité là-dessus et puis surtout ils ont une grande implication dans le suivi de leurs enregistrements, tant sur la promotion que sur les concerts. Ce fameux fantasme dans le classique d'avoir sur scène des programmes qui sont au disque, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire, mais qu'on fait de mieux en mieux, et beaucoup sur l'impulsion des artistes. Donc, il y a une grande proximité avec eux, tout en gardant l'identité. Autre exemple, une identité et une histoire propre. Hopkinson Smith. Hopie a enregistré une trentaine d'albums depuis Astray, et on a continué avec lui. Alors lui, dans une démarche de répertoire, et dans sa démarche d'artiste, et je pense que dans son domaine, c'est un des meilleurs, on est très heureux de l'accompagner. On ne cherche pas à sortir des sentiers battus ou aller faire du crossover sur d'autres publics avec lui. On continue son chemin, son parcours d'un des princes du luth. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt très bien. Ses derniers enregistrements Bach ont connu un succès assez important.
Dans la définition que vous venez d'évoquer de ce que représente le classique chez Naïve, quel impact a eu le fait effectivement de lancer cette aventure sur des catalogues ? Il y a eu l'intégration assez rapide quand Naïve a ouvert ses portes de catalogues aussi emblématiques que Covidis, Astray, Valois, etc. Est-ce que j'imagine qu'on part déjà avec quelque chose en main ?
Absolument,
l'identité.
C'était la volonté absolue de Patrick Zelnick, donc le fondateur de Naïve, dont le parcours a été complètement axé sur la pop, puisqu'il avait créé ce label Virgin France, avec les succès qu'on connaît. Donc quand il a créé Naïve et a parlé de multiculturalisme, tout le monde a dit « Oui, mais Patrick Zelnick est quelqu'un qui vient de la pop, il va faire de la chanson, uniquement de la chanson. » Et il a eu la volonté profonde de démarrer avec un label important, classique, donc il a repris Ovidis, c'est-à-dire Astray, c'est-à-dire tous ces fameux catalogues. Et donc tout de suite, le classique a été une part importante de l'activité. Et aujourd'hui, il y a un équilibre entre le classique, on va dire la pop chanson, et les musiques pour enfants, les musiques du monde, qui est très fort. Et le fait pour nous d'arriver, donc il y a à peu près 15 ans, en pouvant s'appuyer sur ce catalogue et en continuant avec ces artistes, beaucoup d'artistes qui sont dans cette collection sont toujours en activité chez Naïve et on a toujours des projets avec eux, je crois à créer une culture, même si on a beaucoup changé, on a fait évoluer l'identité du label, on est parti sur une base forte en effet et de grande qualité.
Est-ce que certains ont leur mot à dire un peu sur l'album qu'ils voulaient éventuellement intégrer dans cette collection ou pas? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des échanges?
Ça s'est passé assez naturellement. Il y a eu échange, oui, sur quel titre intégrer, mais ils nous ont laissé assez libres sur les choix.
Alors c'est vrai que dans les autres jolis faits d'armes de l'aventure classique Naïve, il y a aussi cette édition Vivaldi,
ouais.
Cet ovni discographique aussi. Parlez-nous un petit peu comment, maintenant que le succès est célébré internationalement, que tout le monde reconnaît, toujours dans cette période difficile, cette entreprise complètement délirante.
Alors on fête les 15 ans de l'édition, 50 titres, une douzaine d'opéras, ce qui est quand même notre plus grande fierté, d'avoir enregistré ces intégrales d'opéra en studio pendant 7 jours chaque fois, dans des conditions qu'on a voulu chaque fois optimales, avec ces distributions qui sont maintenant très fidèles à l'édition. Donc c'est vrai que c'est une aventure un peu folle, et le plus incroyable et le plus fou, c'est que ce compositeur qui est peut-être le plus universel et le plus connu, et était aussi, alors un peu moins maintenant grâce à l'édition, un parfait inconnu, puisqu'on ne connaissait qu'une partie de la production énorme de Vivaldi. Donc ces manuscrits qu'on est allé rechercher à Turin, qu'on a réédités, réenregistrés avec ces artistes, ont créé une sorte de saga. Les pochettes n'y ont pas été pour rien non plus. Et on a fait une grande partie du chemin maintenant sur les opéras, mais il nous reste encore beaucoup de choses à enregistrer, Concerto pour basson, là aussi avec Sergio Azzolini, les premiers volumes ont eu un succès et ont été accueillis formidablement. Beaucoup de concertos pour violon. On sortira à la fin d'année des concertos pour deux violons avec Riccardo Minasi et Dmitri Sinkovski. Donc l'aventure continue.
Ah, vous me tendez une perche, je vous parle effectivement de ce que c'est visuel reconnaissable. Il y a aussi une identité visuelle avec la collection classique naïve. C'est quelque chose aussi dès le départ qui était important de donner un ton graphique et visuel, esthétique.
Ça, c'était une idée importante dès le départ avec Hervé Boissière, qui dirigeait le label à l'époque, qui était de raconter une histoire un petit peu différente, de sortir des codes habituels du classique, et là aussi d'avoir une politique artistique qui n'en était pas une, quoi. C'est-à-dire d'être un peu en contre-programmation, de rompre. Et là aussi, les artistes ont été tout de suite très impliqués. Il n'y a aucune pochette chez Naïf qui sort sans l'accord absolu de l'artiste. Donc il y a un vrai échange et un vrai travail artistique pour la pochette également. On a la chance, je pense aussi grâce à notre réputation dans ce domaine, de travailler avec des photographes extrêmement reconnus, extrêmement talentueux, qui, je pense notamment à Denis Rouvre pour l'édition Vivaldi, qui s'est pris de passion aussi pour cette édition et qui a dû faire une quarantaine de pochettes pour nous. Donc c'est un élément... C'est un élément artistique, c'est un geste artistique aussi, la pochette.
Geste aussi au niveau du son, puisque comme je le disais, tous les albums sont disponibles en studio master. C'est, oui, j'imagine, important que tout soit... On a parlé de l'esthétique, on a parlé de la musique, des interprètes, que même au niveau sonore, ça soit quelque chose de...
Évidemment, c'est capital. Et Cobuz est un acteur capital aussi de la musique sur Internet, mais dans la qualité optimale. Donc accompagner cette démarche nous semble tout à fait naturelle.
Est-ce que vous avez des coups de cœur? Je sais que c'est un peu difficile de demander à choisir dans les 16 albums, demander comme un père demander dans ses 16 enfants lequel il préfère. Est-ce que vous auriez à titre personnel un ou deux albums quand même qui vous tiennent plus à cœur, peut-être pour une raison particulière, je ne sais pas?
Je pense que parmi ces 16 albums-là, celui que j'ai découvert bien avant, avant d'entrer chez Naïf, c'est le Stabat Mater de Rinaldo Alessandrini avec Sarah Mingardo. Et ça, c'est un coup de cœur absolu. Je crois que je ne suis pas le seul. Mais c'était une de mes îles désertes déjà avant de rentrer chez Naïve.
Est-ce que cette île déserte pourrait avoir une petite sœur, une autre île déserte? Est-ce qu'on pourrait l'étendre, d'après vous? Est-ce que s'il y a une volonté éventuellement d'étoffer le territoire?
Oui, absolument. Il y a matière pour le faire. Tout à fait. On l'a appelé la collection aussi pour être... ouvert sur
une suite possible. La possibilité d'une île, d'une autre île, c'est ça?
Exactement, la possibilité d'une île. On a une autre collection qui a connu quatre séries successives qui s'appelaient les voix baroques, parce qu'on a une partie très riche du catalogue dans ce domaine vocal baroque. Donc c'est une collection qui a vécu et qui a été alimentée et qui doit maintenant être à 60 titres, qui marche d'ailleurs très bien.
Quels sont les projets ou les envies sur lesquelles vous travaillez actuellement au niveau du classique chez Naïve et dont vous pourriez révéler éventuellement quelques informations?
Parmi les parutions à venir, à la rentrée, un nouvel artiste nous rejoint et on en est très heureux, c'est le contre-ténor Franco Fagioli, qu'on présente de moins en moins puisqu'il a connu un succès sur scène avec cet art à Cercé phénoménal. Donc on est très heureux qu'il nous rejoigne avec un album hommage à Caffarelli, castra ultra réputé de Naples, grand rival de Farinelli. Et je crois que c'est un album qui va être marquant parce que Franco a une capacité vocale, une amplitude vocale, une virtuosité, une sensibilité qui est assez phénoménale. Donc dans cette planète si riche des contre-ténors, je crois qu'il apporte quelque chose de différent et d'intéressant. Et pour tout vous dire, un album Porpora suivra ensuite cette sortie-là. Sinon, parmi les projets ambitieux de la rentrée, je citerai Marc Minkowski et cet enregistrement de deux vaisseaux fantômes, le vaisseau fantôme de Wagner, bien connu, et un vaisseau fantôme totalement inconnu qui est ressuscité grâce à la fondation Bru, qui est le vaisseau fantôme de Deitch. Un magnifique album d'Anne-Sophie Fonauteur qui rend hommage à la mélodie française et à la chanson. Donc c'est un double disque avec des mélodies de Ravel, Fauré, Debussy et des chansons de Barbara, de d'Yves Montand, de Georges Moustaki, de Léo Ferré, etc. Répertoire qu'elle sert toujours avec une classe et une sensibilité et un sens du verbe français assez unique.
Bien, bah, avant d'entendre tout ça, on pourra conseiller à chacun de se replonger dans les 16 volumes de la collection Naïve. Merci Didier Martin.
Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.